Trisac. L'original. Radio. Dutrisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Mardi 19 octobre 2021. Je ris parce que Maude Boutet est avec moi en studio, puis on jasette de choses et d'autres. Puis là, Achille est là, puis il dit, il est comme 10h35, le gros, faut que tu te branches, là, faut que tu te places. Ben oui, c'est correct. Et en passant, à midi 15, on aura Christine Groulx, qui est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, pour nous parler des problèmes d'offrir des services en soins pour des soins des problèmes de santé mentale. Je vais essayer de faire une phrase complète pour 19 000 personnes qui attendent de voir un psychologue. Ça, il y a eu 100 millions investis. On se demande où est allé l'argent, puis aussi comment se fait qu'on donne pas les services à presque 20 000 personnes qui attendent de voir un psychologue. C'est pas pour des ongles incarnés non plus. Et à 11h15, Jean-Louis Fortin sera avec nous. Je suis persuadé qu'il va arriver avec un large sourire, très heureux d'être là. Directeur du bureau d'enquête de Québecor. C'est la première page aujourd'hui. Un autre cafouillage de la justice, cette fois à Terrebonne. Les accusations tombent à l'eau. Jean-Marc Robitaille, vous vous souvenez de cette vidéo où on le voyait se branler la bisoune sur le yacht de Tony Accurso. Il était en speedo, ou en tout cas, c'est assez troublant. J'arrête pas de dire que juste cette vidéo-là méritait 6 mois de prison, mais bon. Alors, on va lui parler à 11h15, mais tout d'abord, on va aller joindre Frédéric Boily, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Monsieur Boily, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a eu un référendum. Là, vous allez avoir, paraît-il, les résultats comme dans une semaine. Puis nous, au Québec, on se concentre sur cette question qui touche la péréquation. Mais c'était pas seulement ça, hein?
Oui, il y avait plusieurs, il y avait une autre question aussi concernant le changement d'heure. Il y avait des élections sénatoriales également. Du côté de Calgary, il y avait même une question concernant le fluor, de rajouter le fluor dans l'eau. Donc, c'était une grosse soirée électorale en Alberta, considérant aussi que c'était deux maires importants qui quittaient en même temps. Et donc, on regardait avec attention qui serait élu, parce que c'est vraiment un changement de garde. Concernant le référendum sur la péréquation, on a quelques résultats préliminaires, parce que les villes pouvaient, ou certaines villes pouvaient déjà dévoiler certains résultats non officiels. Ce qu'Edmonton n'a pas fait, mais ce que du côté de Calgary on a fait, il semble-t-il que ça serait proche de 60% en faveur question, à savoir de retirer l'article 36 là, concernant la péréquation, et dans d'autres villes du Sud, mais on n'a pas encore le portrait global là, de la façon dont les Albertains, ou ceux qui se sont déplacés, parce que ça c'est une autre question aussi, ceux qui se sont déplacés ont voté en faveur ou non de cette question.
OK. Il y a plusieurs affaires. D'abord, l'élection municipale, M. Boily, là, à Calgary, je me trompe pas que sur les informations officielles pour les élections, il y avait toutes les langues sauf le français.
Oui, ça c'est arrivé. Ils ont corrigé cependant par la suite, mais il y avait près d'une dizaine de langues sur concernant les informations officielles données par la ville de Calgary. Mais je dois dire que c'est pas la première fois que ça arrive. On voit ça dans les deux grandes villes. Parfois des informations qui concernent tous les citoyens, le français se retrouve absent. Par contre, il y a certains conseillers ou candidats dans des quartiers qui eux ont traduit leur dépliant de campagne, si je puis dire, et qu'ils présentaient en français ou en anglais. Bon, c'est pas la majorité, mais certains ont au moins pris la peine de le faire.
Mais
ce qui est dommage, ouais, c'est pour les villes souvent.
Ouais. Mais là, ça peut pas aller du cas par cas, là, M. Boily. J'imagine, il y a quelqu'un quelque part qui est en position de pouvoir puis qui dit, il y a pas de français. On va mettre toutes les langues sauf le français. C'est un peu insultant. J'imagine, vous êtes le premier à réagir.
Oui, 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 non, ça c'est certain. Toute la communauté francophone, on est toujours en Alberta, c'est toujours vu comme étant une sorte de forme de mépris d'une certaine façon, parce que considérant aussi l'ancrage historique lointain des francophones en Alberta, c'est pas une communauté qui vient d'arriver là, récemment. Ça fait partie même de l'histoire albertaine.
Est-ce que c'est un territoire français non cédé?
Non, on pourrait pas. Mais la présence francophone, par exemple, le quartier où j'habite, le nom maintenant hein, est dit comme Bellevue, mais c'est un nom francophone, Bellevue.
Ah oui, hein.
Sur la rivière, oui. Mais ça, c'est perdu là maintenant dans la pour la majorité évidemment des Edmontoniens.
J'imagine. Le taux de participation, est-ce qu'on le connaît à ce référendum?
Non, on ne connaît pas encore, justement, parce que là, ça y va ville par ville. Du côté d'Edmonton, le taux de participation n'a pas été vraiment élevé, je croyais. En tout cas, si j'en crois les chiffres officiels pour le moment, qu'il serait plus élevé. Là, ce que j'ai vu pour la mairie, c'est en bas de 40%, donc 37%. Ce qui fait que ça aussi, ça va faire partie de l'interprétation des résultats référendaires. Parce que, bon, au Québec, en 95, on ne se posait pas question, le taux de participation au-dessus de 90%, donc il n'y a pas de doute que le peuple a parlé. Mais là, si il y a un taux de participation beaucoup plus faible et que la question référendaire n'a pas amené énormément d'Albertains à voter, ben là, il va y avoir cette querelle sur l'interprétation des résultats. Moi, en tout cas, moi, à mon avis, il va y en avoir une, parce que là, on va dire peut-être que, oui, ceux qui ont voté sont en faveur, mais il y en a combien qui ont véritablement voulu voter sur cette question-là? Surtout qu'il y a certainement des néo-démocrates qui, eux, ne se sont pas déplacés. Plutôt que d'aller voter non, on a dû se dire, on participe pas à ce grand jeu des conservateurs unis de Jason Kenney.
Donc, on peut remettre en question la légitimité du référendum en soi?
Ça risque d'être un débat, effectivement, parce que pour un référendum, on s'attend à ce qu'il y ait un taux de participation plus élevé, surtout que lors de la prochaine élection municipale, il n'y aura pas de question sur la péréquation. Alors que avec des élections municipales pour un maire, ben on peut toujours surprendre dans 4 ans, ce qui n'est pas le cas avec une question référendaire. C'est pour ça que c'est toujours embêtant avec les référendums. On peut pas les juger comme des scrutins ordinaires, d'où cette question-là de la légitimité.
La question, c'était l'article 36 de la loi constitutionnelle de 1982, qu'on n'a pas signé encore, sauf erreur au Québec. L'engagement du Parlement et du gouvernement du Canada au principe des paiements de péréquation devrait-il être retiré de la Constitution? Est-ce que c'est une balloune, ça, M. Boily? Est-ce que c'est un sondage sur la popularité de Jason Kenney où on se dit, on va faire du Québec bashing, puis ça va être payant politiquement?
C'est vrai que ça peut être interprété comme ça, et que le Québec est fréquemment, et très fréquemment, j'aurais même trop fréquemment évoqué dans ce débat-là. Parfois, la Colombie-Britannique, ça, il faut pas l'oublier aussi. La Colombie-Britannique, au début, était, lorsqu'il y a eu l'élection en avril 2019 ici en Alberta, c'était la Colombie-Britannique aussi avec le Québec qui refusait la construction du pipeline Trans Mountain.
Ouais.
Québec ou NRJS, et il y avait un ressentiment très fort à ce moment-là aussi contre la Colombie-Britannique. Là, à savoir maintenant, je reprends votre expression, si c'est une balloune ou pas, ben certains l'interprètent un peu de cette façon-là. C'est-à-dire que le débat sur la péréquation, ça fait 3 décennies minimalement qu'il dure ici, qu'il y a des intellectuels de droite qui affirment toujours que la péréquation et d'autres mesures aussi ont été taillées sur mesure pour garder captif l'électorat du Québec, captif aux mains du gouvernement fédéral qui se trouve être plus souvent libéral que conservateur, et que dans ce contexte-là, poser une telle question qui, telle qu'elle est posée, ne permet pas au gouvernement de retirer évidemment la péréquation de la Constitution. Ça prend des négociations, mais même Jason Kenney lui-même affirme que c'est simplement un levier politique pour essayer d'obtenir une entente plus juste auprès d'Ottawa. Donc, dans ce contexte-là, oui, il y a une dimension, disons, d'instrumentalisation politique pour Jason Kenney.
Mais à quel point il est magané politiquement, Jason Kenney, à cause de la gestion de la pandémie?
Ah, très, très, très. très magané, pour reprendre aussi votre expression, parce que là, maintenant, il est à 22% dans les sondages mesurant la popularité. La dernière fois que c'est arrivé, c'était la première ministre, Alison Redford, autour de 2014, elle était à 18%, puis elle a démissionné le soir du sondage. Donc, il est dans une position de faiblesse, parce que c'est pas juste l'opposition officielle ou toutes les autres oppositions qui s'opposent à lui, mais c'est à l'intérieur même de son propre parti. Par conséquent, il n'est vraiment pas dans une position de force pour aller négocier, même s'il avait un mandat très fort avec la question référendaire, avec un oui très fort.
Mais négocier quoi au juste, M. Boily? Là, est-ce qu'on a un chiffre, là? Est-ce que c'est 3 milliards, 4 milliards? Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche finalement en Alberta?
Ah non, ça c'est justement, ça c'est l'autre problème. C'est-à-dire que ceux qui sont contre la péréquation disent toujours, hein, on envoie 20 milliards de trop vers Ottawa. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut récupérer? Jason Kenney ne le dit pas nécessairement. On veut rouvrir le dossier de la péréquation, la formule de calcul, mais comme c'est une formule qui est compliquée aussi, ben c'est clair qu'il n'y a pas personne qui est arrivé sur la table avec des chiffres très précis, ouais, en disant obtenir tel ou tel gain, parce que il n'y a pas eu de campagne autour de cette question-là. C'est-à-dire, on nous a posé la question, puis il appartenait à chaque citoyen, après ça, de faire ses propres recherches, quelques textes sans plus, mais même le gouvernement ne l'a pas défendu. Jason Kenney a répondu a parlé de la péréquation seulement si des journalistes ici poser la question d'une certaine façon.
C'est bien bizarre. On dirait les élections fédérales en Alberta. Tu sais, on demandait à Justin Trudeau pourquoi des élections à ce moment-ci, puis c'était des réponses floues, puis on voit bien qu'il n'y avait pas urgence, puis c'était juste pour avoir une majorité qu'il n'y a pas eu. Puis là, en Alberta, c'est pareil. Pourquoi ce référendum? Ça porte sur quoi exactement? Finalement, on sait pas précisément.
On ne le sait pas précisément parce que ça appartient pas au gouvernement provincial de pouvoir régler la question, ouais, comme c'est avec la question posée sur le changement d'ordre. Ça, effectivement, le gouvernement provincial peut agir à partir des résultats en 2023. Peut-être qu'il ne changera pas d'ordre.
À quelle heure Jason Kenney va être, là, 1953, 54?
57.
57.
C'est là que la péréquation a commencé.
Ah oui, OK. Mais pourquoi le changement d'heure? Pouvez-vous nous l'expliquer?
Ah, c'est une vieille... depuis que je suis arrivé en Alberta, maintenant presque 20 ans, on entend tout le temps des débats autour du changement d'heure, lorsque, surtout au printemps, vient le temps là, d'avancer l'heure. Et là, pourquoi ne pas rester toujours sur le même fuseau horaire, comme c'est le cas maintenant aussi en Saskatchewan? Et la question qui, surtout comme à Edmonton, c'est vrai qu'au mois de décembre, autour de Noël, juste avant Noël, il n'y a pas beaucoup de clarté durant la journée. On est fait autour de 7 heures à peu près. Donc, le matin, c'est vrai qu'il fait noir assez longtemps et que la clarté disparaît très rapidement aussi le soir. Et c'est pourquoi certains voudraient avoir un peu plus de clarté le soir. Mais si on fait ça, ça veut dire que le matin, aller pratiquement jusqu'à 10 heures avant que le soleil ne se lève,
il va faire... OK. Alors, on comprend mieux. Avant qu'on se quitte, M. Boily, là, je reviens à ce référendum, là, sur la péréquation, qui est, de toute façon, on verra, là, les résultats. Mais je lisais que, en Alberta, il n'y a pas de taxe provinciale, je me trompe pas, hein. Il y a juste une TPS de 5%.
Oui, il n'y a pas de taxe provinciale. Effectivement. Et ça, c'est justement la critique des opposants au référendum de dire, ben, écoutez, le gouvernement albertain dispose de tous les outils pour essayer de diversifier ses sources de revenus. Et c'est pas en critiquant la péréquation, en faisant un référendum sur la péréquation, qu'on veut régler ce problème-là. On peut régler le problème à l'interne.
Mmh. Puis, en conclusion, je lisais dans l'actualité ce matin, on écrivait, si le gouvernement du Québec appliquait la même structure fiscale que l'Alberta, ses revenus chuteraient de 44%. Il y a quelque chose là. L'Alberta cherche de l'argent. Je sais qu'ils nous en veulent à cause des pipelines, là, mais en même temps, il y a une réflexion à avoir sur toute la question fiscale.
Absolument. Ça, c'est clair et ça revient continuellement. Mais même quand il y a eu un gouvernement néo-démocrate, cette réflexion-là, finalement, ne s'est pas véritablement faite. Le problème, c'est qu'il y a un verrou qui a été mis sur cette question-là avec Ralph Klein, qui est parvenu à équilibrer les budgets, à éliminer la dette au début des années 2000. Et là, on a l'impression que tout le personnel politique qui vient après a toujours ça en tête, que si Ralph Klein l'a fait sans augmenter les taxes et sans diversifier justement les sources de revenus, ben il faudrait bien le faire aussi. Mais ça fait en sorte que les comptes de l'État sont jamais équilibrés et que on fait un référendum sur la péréquation.
Auquel on aura un résultat dans les jours qui viennent et qui va donner, si je comprends bien, un mandat, qui donnerait un mandat à Jason Kenney d'aller rouvrir la Constitution à Ottawa. Puis vraiment, ça fait partie des priorités de tout le monde,
là. Pas tant, c'est clair. On n'en a pas discuté du tout durant l'élection fédérale. Même les conservateurs de Renault Tool, c'est quelques lignes seulement dans le programme volumineux. Donc, j'ai pas l'impression, surtout avec la question des transferts en santé, que celle de la péréquation est au centre de des débats sur la scène nationale.
C'est vrai, hein? La question de transfert en santé, ça implique toutes les provinces face à Ottawa.
Effectivement, dont l'Alberta. Et là, il y a une possibilité de monter des fronts communs. Mais monter un front commun pour aller changer la formule de péréquation, il y aurait probablement seulement Scott Moe en Saskatchewan. Et Scott Moe est aux prises, lui aussi, avec une quatrième vague qui n'arrive pas à gérer et qui, lui-même, se retrouve aussi en position relativement de faiblesse.
Très bien. Frédéric Boily, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup, M. Boily. Un vrai plaisir.
Au revoir.